Salut Zakaria, je te fais une note vocale pour évoquer les liens entre dette publique, réforme monétaire en Afrique de l'Ouest et la nécessité d'intégrer la réforme du franc CFA dans une démarche de planification stratégique qui tienne compte de l'ensemble des enjeux de la région, notamment ceux relatifs à l'endettement extérieur. Alors, pour te donner un peu de contexte, le système monétaire du CFA en Afrique de l'Ouest concerne 8 pays qui utilisent une monnaie unique et commune, dont la particularité, c'est de disposer d'un taux de change fixe avec l'euro. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas ici de s'interroger sur la pertinence ou non de réformer ce système monétaire. Je considère que cette réforme doit intervenir et dans des proportions plus importantes que le rebranding de décembre 2019 qui a donné naissance à ce que j'appelle l'éco-UMOA ou ce que tout le monde appelle l'éco-UMOA. C'est la raison pour laquelle je te propose de formuler l'hypothèse d'une réforme monétaire, donc qui serait alignée sur le projet de monnaie commune dit éco-CDAO, qui mettrait fin à la parité fixe avec l'euro, qui créerait une zone incluant tous les pays de la sous-région, parce que c'est pas le cas avec le CFA, et qui instaurerait une banque centrale dont la mission serait d'utiliser l'instrument monétaire comme outil d'appui aux politiques économiques. Alors, pour que cette réforme produise les effets bénéfiques espérés, il est impératif qu'elle s'inscrive dans une démarche globale qui intègre les fondements, l'évaluation des impacts et les conditions de succès de ce tournant que je considère comme historique. À défaut, les États de la zone prendraient le risque d'enclencher une dynamique qui ne servirait qu'à détériorer la situation déjà pas très évidente dans la région. Alors, commençons par les fondements de la réforme. Tout d'abord, il s'agit d'une aspiration politique qui ne peut pas être ignorée, et c'est pour moi peut-être l'argument qui doit le plus peser dans la balance, car il contribuerait à réduire le manque de légitimité politique dont souffrent les gouvernements et les acteurs politiques de la zone. La réforme du CFA, c'est donc une aspiration politique forte qui doit être adressée au-delà d'un simple changement de nom et à la fin d'une obligation de dépôt des réserves, qui est le cas dans le système CFA actuel, qui résonne comme un peu comme un manque de considération pour les aspirations de changement des populations. Alors, un autre argument en faveur de la réforme du système monétaire, c'est celui de la nécessité de disposer d'un levier monétaire comme outil de financement de l'économie. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais en restant dans le système CFA, les pays de la zone renoncent à utiliser cet outil-là parce que les dispositifs du CFA ne le permettent pas. Et du point de vue de la souveraineté et des enjeux de la zone UMOA et de la zone CDAO, il n'y a aucune raison de se passer d'un levier supplémentaire au service du développement économique. Ensuite, le troisième argument qui fonde cette réforme, c'est celui qui est construit autour de l'intégration régionale. Alors, cette expérience de l'éco-UMOA a montré de manière très claire que des acteurs majeurs de la région sont opposés à une réforme qui s'inscrirait dans la lignée du CFA. Ils veulent donc aller vers d'autres choses, vers une ambition qui est plus portée par l'éco-CDAO. Par conséquent, la réforme qu'il faut dans la zone CFA actuelle, la zone éco-UMOA, doit être entendue comme un changement qui s'inscrit dans la lignée du projet de monnaie commune. Après les fondements, je te propose de passer à l'évaluation des impacts sur les enjeux relatifs à la dette notamment. Alors, l'avantage qu'on a avec cette zone monétaire, c'est que en 94, il y a eu une dévaluation et qui nous permet un peu de se faire une idée de ce que pourrait donner une dégradation des taux de change et des impacts que cela produit dans la région. Alors, le premier enseignement, c'est que la baisse de la valeur d'une monnaie ne signifie pas mécaniquement une hausse de la compétitivité à l'international. Et ça a même été plutôt le contraire. Le deuxième enseignement est que la dévaluation revalorise les emprunts libellés en devises. Alors, si on prend la situation de 94, on a un taux d'endettement de 90% à la fin de 1993 et à fin 1994, on est à 118%. Et entre-temps, l'événement majeur, c'est cette dévaluation-là. Donc, elle détériore non seulement la situation d'endettement, mais du coup, elle grève les marges de manœuvre de financement des États. Et cet effet-là, il a eu cours pendant les 20 années qui ont suivi. Le troisième enseignement, il concerne la nécessité d'une approche globale dans les réformes. Alors, c'est un peu une extension, mais si on reprend ce qui s'est passé dans les années 90, on s'aperçoit qu'il y a eu des tentatives individuelles de renégociation avec les créanciers et que ces tentatives individuelles ont dégradé le rapport de force face aux créanciers. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir une approche globale pour réformer la zone monétaire. Ensuite, au-delà du passé, il faut aussi regarder les paramètres actuels, notamment les paramètres d'endettement des différents pays de la zone, pour pouvoir évaluer les impacts. Et on s'aperçoit tout de suite déjà qu'il y a une hétérogénéité des conséquences de la réforme, parce que les situations sont différentes selon les pays. Tous les pays ne sont pas endettés de la même façon. Ensuite, il faut évoquer aussi la question de la dépendance au financement extérieur, qui représente une part trop importante dans le financement public pour ne pas être pris en compte. Et enfin, le déficit, ça c'est aussi un paramètre actuel, le déficit structurel de la balance commerciale, et qui est alimenté par l'importance des matières premières dans les exportations, mais aussi par des importations de denrées alimentaires. Et si je te prends juste l'exemple des denrées alimentaires, il faut pouvoir intégrer dans la réflexion de la réforme monétaire le fait que les denrées alimentaires que l'on importe pour se nourrir vont coûter plus cher. Donc tout ça, ça doit faire partie de la planification. Donc après avoir vu les fondements et avoir tenté d'évaluer les impacts, il faut s'interroger, à mon sens, et poser les conditions de succès à cette réforme monétaire. Alors, pour moi, un des paramètres essentiels qui doit faire partie des prérequis à la réforme monétaire concerne la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur que j'évoquais précédemment. Alors, si la dette publique extérieure, par exemple, c'est 87% de la dette publique dans la zone UEMOA, et ça veut dire que les États recourent à des capitaux extérieurs pour financer leurs déficits, et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir renverser si on veut pouvoir faire cette réforme dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il est impératif pour moi de construire un appareil productif qui permette de rendre possible ce qu'on appelle la substitution des biens importés par des produits localement. Étant donné qu'on achète beaucoup de produits à l'extérieur, si on a une monnaie plus faible, ça va nous coûter plus cher, et il faut donc construire un tissu industriel local qui permette de produire localement ce qu'on va chercher aujourd'hui à l'extérieur. Et enfin, dernier point qui est aussi très important dans les conditions de succès, je pense qu'il faut encore une fois mettre en avant la question régionale. Parce que s'il y a quelque chose qui nous a été montré par la tentative de réforme faite en 2019, de réformette, c'est qu'il y a des acteurs majeurs de la région qui sont totalement opposés à une réforme qui s'inscrit dans la lignée du CFA. Ici, c'est pas l'objet de se demander quel système il faut mettre à la place exactement ou comment il faut jouer les influences, mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience-là de la réforme de 2019 montre qu'il faut qu'il y ait un travail régional, un travail collégial qui permette d'arriver à un système monétaire qui convienne à tout le monde. Et en fait, pour conclure un peu cette note vocale, je voulais te donner quelques recommandations que je classe en deux catégories essentiellement. La première catégorie, elle est sur le plan politique. Et il y a deux recommandations dans cette catégorie-là. La première, c'est de considérer la réforme monétaire, comme je disais au début, comme un impératif politique qui va contribuer à une refonte de la perception de l'action publique dans la zone UEMOA et dans la zone CEDEAO. Pour moi, c'est la clé pour éviter d'alimenter un sentiment de frustration qui est à la base de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire. Deuxième recommandation, faire de cette rupture avec l'héritage du CFA une étape vers la création d'une zone monétaire intégrant l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et ce qui rejoint l'hypothèse de départ qu'on avait prise sur le système monétaire éco-CEDEAO. Donc le projet d'union monétaire au niveau de la CEDEAO, il existe, il doit servir de base pour le renforcement de l'intégration régionale. Et cette intégration régionale, elle doit être envisagée comme un modèle qui permettra à l'ensemble des pays de prospérer tout en bénéficiant de la protection régionale face à la canonnière de l'endettement. Et je t'invite à aller regarder plus précisément à quoi ça correspond, cette notion-là. Deuxième catégorie de recommandations, plutôt sur des aspects économiques cette fois-ci. La première recommandation, qui est en fait la troisième de cette note vocale, c'est de mettre en place une gouvernance stratégique de la dette du fait du lien qui existe entre les questions monétaires et l'endettement. Ça doit être une gouvernance prospective qui permet de combiner les impératifs de financement à court terme, donc la prépondérance du financement extérieur, comme on l'avait expliqué auparavant, et l'hétérogénéité des situations, avec la conscience que la réforme monétaire ne pourra être réussie que si elle se produit dans un contexte d'endettement maîtrisé. Autre recommandation du point de vue économique, donc la quatrième, mettre en place les mécanismes administratifs qui permettent une captation plus large et plus performante de l'impôt. Alors ça peut paraître un peu plus technique, mais le taux de pression fiscale, donc le niveau d'impôt qui est collecté, est encore trop faible dans la région. Or, ça serait une bonne source de financement à court terme pour les États pour éviter de devoir se tourner vers l'extérieur. Et dernière recommandation, et qui est peut-être aussi la plus importante, c'est celle de la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation qui ouvre la voie à la possibilité de substituer certaines importations par de la production locale, tout en créant les conditions pour bénéficier des gains de productivité à l'export. Parce que ce qu'on passe un peu sous silence dans l'analyse de cette question-là, c'est que faire une réforme monétaire dans un environnement où les matières premières brutes représentent l'essentiel des exportations, ne permet pas vraiment de bénéficier de gains de productivité. Alors que si on commence à transformer les produits, là on rentre dans une logique où une monnaie plus faible permet d'exporter plus. Donc cette politique d'industrialisation, elle pourrait encore être plus pertinente, et je t'invite à regarder les prochains travaux que l'on va publier là-dessus, si elle est planifiée à l'échelle régionale, parce qu'elle permet de créer des pôles de spécialisation et d'éviter la mise en concurrence des pays membres. Donc voilà pour cette note vocale.